Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans l'Évangile selon saint Marc. Nous en sommes au chapitre 8, page 16 sur le polycopier, donc qui contient les explications des pères des chapitres 6 à 10 de saint Marc. Nous sommes en bas de la page 16. Dans les explications des versets 22 à 26. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ vient de guérir un aveugle. Alors, c'est un peu spécial, j'ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas, ou sinon très rapidement. Notre Seigneur Jésus-Christ va faire cette guérison en deux étapes. D'abord, une demi-guérison, puis une guérison complète. Donc, notre Seigneur va conduire cet aveugle hors du bourg, lui met de la salive sur les yeux, lui impose les mains, lui demande ce qu'il voit. Et déjà, il voit quelque chose, alors qu'avant, il ne voyait rien du tout. Il voit des hommes marcher semblables à des arbres. Donc, notre Seigneur va de nouveau lui imposer les mains sur les yeux, et il fut si bien guéri à ce moment-là, l'aveugle, qu'il voyait les choses distinctement. Je vous ai expliqué que les pères de l'Église expliquent que notre Seigneur Jésus-Christ, ici, nous explique la nécessité d'avoir une foi parfaite. Et si l'aveugle n'a pas été guéri immédiatement, c'est à cause de l'imperfection de sa foi, la foi imparfaite de l'aveugle et de ceux qui l'ont amené, qui cause que ses yeux ne sont pas tout à fait ouverts, dans le sens qu'il était encore dans les ténèbres de l'incrédulité. Et c'est pour cela que de son aveu, disent les pères, il ne voyait les hommes que d'une manière confuse. Donc, saint Bède explique que notre Seigneur Jésus-Christ lui met de la salive sur les yeux, lui impose les mains, pour lui montrer qu'il a dissipé l'aveuglement du genre humain par ses dons invisibles, par le mystère de son incarnation. La salive qui vient de la tête de l'homme, de la bouche de l'homme, signifie donc la grâce du Saint-Esprit. Donc nous en sommes en bas de la page 16. Donc tout homme, disent les pères, qui a été longtemps enseveli dans une si profonde obscurité qu'il ne pouvait plus discerner le bien du mal, aperçoit les hommes qui marchent comme des arbres, parce qu'il voit sans la lumière du discernement, les actions de la multitude qui l'entoure. Donc c'est très important pour nous. Nous avons un peu tous, moi le premier peut-être, nous avons une foi imparfaite. Et nous croyons en Dieu, mais on n'a pas trop confiance en lui. On voudrait voir les choses. On voudrait que notre Seigneur Jésus-Christ fasse des interventions miraculeuses, un peu comme celles qu'il a faites au temps de Sainte Jeanne d'Arc ou au temps de l'empereur Constantin. Donc, on voudrait qu'il y ait une apparition, que notre Seigneur nous apparaisse dans le ciel pour nous dire exactement ce qu'il veut faire. Non, le bon Dieu ne travaille pas comme cela. Il exige de nous un perfectionnement de notre foi. Donc, Saint Jérôme précise que l'aveugle voit les hommes comme des arbres parce qu'il les considère comme lui étant supérieurs. Jésus lui met de nouveau les mains sur les yeux pour rendre à sa vue toute sa netteté, c'est-à-dire pour lui faire voir les choses invisibles comme à travers les choses visibles, et pour que les yeux de son cœur purifiés puissent contempler ce que l'œil de l'homme n'a jamais vu, la clarté brillante d'une âme purifiée de la rouille du péché. Donc, on voudrait un petit peu voir, encore une fois, toucher nos doigts les réalisations de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ prépare pour nous un royaume éternel au ciel. Et qu'ici-bas, eh bien, les choses ne se font pas comme au ciel. Au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ régnera sans aucune contestation, parce que justement, il est l'unique Dieu au ciel. Ici-bas, notre Seigneur Jésus-Christ accepte, je dirais, de se laisser écrabouiller littéralement, comme pendant sa passion, écrabouillé par les hommes. Donc on a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait plus rien. Et c'est très important pour nous, surtout dans la situation actuelle de l'Église. Beaucoup de nos fidèles se découragent en disant, mais monsieur l'abbé, cette situation dans laquelle nous sommes, d'être orphelin d'autorité, ça fait 60 ans que ça dure maintenant, depuis les années 58-60, avec la mort du pape Pie XII en 58 jusqu'en 2020, ça fait 60 ans, 62 ans même, eh bien, on a l'impression que le bon Dieu nous a complètement oubliés. Non, le bon Dieu veut que nous utilisions notre foi pour croire en l'intervention divine de notre Seigneur Jésus-Christ, même si on ne voit pas les choses se faire comme on le voudrait. Notre Seigneur Jésus-Christ continue de sauver les âmes parce que notre Seigneur Jésus-Christ continue de venir sur nos autels, sur les rares autels du monde où la messe traditionnelle est encore célébrée par des prêtres qui sont vraiment prêtres, donc il n'y en a plus beaucoup. Et notre Seigneur Jésus-Christ est toujours là. Donc on a l'impression que les choses ne se font pas comme nous voulons, c'est vrai. Mais il faut faire un acte de foi. Nous croyons fermement toutes les vérités qui nous sont enseignées par l'Église, parce que notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, mais il n'est pas obligé de nous dévoiler les secrets de ses interventions. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. On n'a pas le droit de limiter en quelque sorte la liberté de Dieu en disant, écoutez mon Dieu, voilà, je vous donne encore quelques jours et puis si vous ne faites pas les choses comme je veux, ben je m'en vais. Non, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite pour que nous acceptions la volonté du bon Dieu, même si nous ne la comprenons pas. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand nous comprenons toutes ses actions. Il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ même si nous ne comprenons pas ce qu'il veut faire. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. Son Église est toujours divine. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien du mal à considérer la divinité de l'Église catholique, on a tendance à ne voir que l'humanité, notre Seigneur. C'est un petit peu comme les apôtres qui voient notre Seigneur Jésus-Christ être flagellé, être couronné d'épines, être porté sa croix, être crucifié comme le dernier des esclaves, et il ne fait rien. Il se laisse faire, littéralement. Alors, on peut comprendre que les apôtres étaient complètement, complètement découragés. Rappelez-vous les pèlerins d'Emmaüs, Nicodème et le frère de Saint-Joseph et Saint-Luc, vraisemblablement c'était les deux, qui quittent Jérusalem complètement écœurés. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ allait rétablir le royaume d'Israël, et puis maintenant, voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort, tout est fichu, tout est terminé, c'est la fin des haricots. Et notre Seigneur Jésus-Christ leur reproche justement leur cœur froid. Vous, au cœur tiède, au cœur froid, ne croyez-vous, n'avez-vous pas compris qu'il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ passe par ces 6 souffrances, avant de ressusciter, il va leur donner un cours de catéchisme pour leur redonner la foi. Et c'est simplement au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va à l'auberge célébrer devant eux le début du sacrifice de la messe qu'ils vont le reconnaître. Et à ce moment-là, il va disparaître. Page 17 sur le polycopier. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va renvoyer l'aveugle guéri dans sa maison. C'est le verset 26 du chapitre 8 de Saint Marc. Alors il le renvoya dans sa maison en disant, allez dans votre maison et si vous entrez dans le bourg, ne dites rien à personne. Notre Seigneur le renvoie dans sa maison, c'est-à-dire dans son cœur, afin qu'il puisse voir en lui ce qu'il n'avait encore jamais vu, car l'homme qui désespère de son salut regarde comme absolument impossible ce qui paraît on ne peut plus facile à l'âme que la grâce inonde de ses lumières. Notre Seigneur Jésus-Christ exige de nous une augmentation de notre foi. Encore une fois, c'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien, quand tout est évident, quand on comprend parfaitement ce qu'il fait, et quand on aime ce qu'il nous demande. L'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas une obéissance selon notre volonté, c'est que votre volonté soit faite, pas la mienne. mettez-vous un petit peu à la place, par exemple, des premiers chrétiens au début de l'histoire de l'Église, entre 67, première persécution, 313, dernière persécution, il y a 250 ans de persécution, des millions de martyrs. Eh bien, l'Église aurait pu se demander, mais les hommes d'Église, les catholiques de l'époque auraient pu se demander, mais qu'est-ce que fait notre Seigneur? Comment se fait-il qu'on est laminé, qu'on est écrabouillé comme ça? Qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il nous a oubliés ou quoi? Et non, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que ce sang des martyrs soit une semence des chrétientés. Et au moment de la victoire de Constantin, la conversion du premier empereur, Constantin, en 313, sous l'influence de sa mère, Sainte Hélène, eh bien, la paix va revenir, ça va être le début des pères de l'Église qui vont pouvoir établir la dogmatique de l'Église, mais ça ne va pas durer longtemps. Très vite, les persécutions vont revenir d'une autre façon, les persécutions d'ordre intellectuel, avec l'arrivée des grandes hérésies, d'abord trinitaires, puis hérésies sur l'incarnation, hérésies sur la grâce. L'Église catholique est une Église de combat, c'est ça qu'il faut comprendre. Un catholique, c'est quelqu'un qui se bat constamment. Après l'avoir guéri, le Sauveur donc le renvoie dans sa maison, c'est-à-dire dans le ciel, car le ciel, où il y a plusieurs demeures, est la maison de chacun d'entre nous. Si nous sommes en état de grâce, si nous avons la foi, eh bien notre cœur devient comme un petit oratoire privé dans lequel chacun va pouvoir venir se recueillir lorsque les bruits du monde sont trop forts, sont trop puissants. Saint Jérôme précise, donc il explique cette phrase, Jésus lui dit, si vous entrez dans le bourg, ne parlez de ceci à personne. C'est-à-dire, ne cessez de raconter à ceux avec qui vous vivez votre aveuglement passé, mais ne parlez jamais de vos vertus. Ne parlez pas de ce que vous pouvez faire par vous-même. Il faut bien pratiquer la vertu d'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ rappelle que la première condition pour que la foi puisse vraiment s'exprimer en nous, c'est la vertu d'humilité. On voit très bien d'ailleurs qu'il s'écarte de la foule. Donc il est avec beaucoup de gens autour de lui, on priait de toucher cet aveugle, et donc il prend la main de l'aveugle, notre Seigneur va le conduire hors du bourg, c'est loin de la foule, avant de le guérir. On voit très bien que notre Seigneur va faire la même chose, d'ailleurs ce n'est pas l'unique cas, mais dans plusieurs autres cas, dans la guérison du sourd-muet, on voit que notre Seigneur s'écarte de la foule pour pouvoir être seul en prière, page 17, afin de rassembler ses pensées et de les unir totalement à Dieu tout en étant plus intensément à sa prière. Il s'éloigne des applaudissements des hommes et nous enseigne à en faire autant. Enfin, les habitants de Bethsaïda ne sont pas dignes du miracle de Christ, car bien qu'ils en aient vu plusieurs, ils ne croyaient toujours pas en lui. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas multiplier les miracles dans cette ville de Bethsaïde. Si mes souvenirs sont exacts, c'était la ville d'origine de Saint-Pierre. Et bien qu'ils aient vu plusieurs miracles, ces gens de Bethsaïde ne croyaient pas en lui. Alors notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas multiplier les miracles dans cette ville à cause justement de leur manque de foi. Donc cet aveugle, dit Saint Jérôme, mystiquement, est le symbole du pécheur pénitent. Donc le pécheur n'en voit plus la grâce du bon Dieu, il a perdu, donc il est aveugle. Et parce qu'il est pénitent, il sera guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Le pécheur qui ne veut pas se convertir, évidemment, ne peut pas bénéficier d'un miracle de notre Seigneur, c'est impossible. Donc comme le roi David, il se considère comme indigne d'être appelé un homme, se voyant comme un chien mort et une puce. Donc le Christ veut nous enseigner ainsi que l'incroyant et le pécheur, représenté par l'aveugle, l'incroyant et le pécheur sont graduellement illuminés par Dieu, qui doivent à leur tour augmenter graduellement dans la connaissance et l'adoration de Dieu. Et si cette adoration n'est pas encore parfaite, eh bien la guérison sera elle aussi imparfaite. Donc il faut augmenter en nous la connaissance de Dieu, la foi, passer d'une foi imparfaite à une foi parfaite. C'est la même chose pour la vertu de charité. pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous pardonner. Mais au début, très souvent, on a une foi, une charité purement servile. C'est une charité servile. La crainte servile, c'est quoi? C'est la crainte de péché, mais en gardant l'intention de pécher. On a peur simplement de certaines conséquences du péché, mais on garde l'intention de pécher. Tant qu'on garde l'intention de pécher, on ne peut pas se faire pardonner par le bon Dieu. La deuxième étape, ce serait la crainte imparfaite, la charité imparfaite. C'est regretter ses péchés par peur de l'enfer. Bon, c'est suffisant pour se confesser, mais le bon Dieu nous demande d'aller à l'échelon supérieur qui est la crainte parfaite, la charité parfaite, le regret de nos péchés par amour pour le bon Dieu. Et c'est simplement lorsque nous sommes arrivés à cette crainte parfaite, cette charité parfaite, le regret de nos péchés par amour pour le bon Dieu, que notre foi peut à ce moment-là être complètement illuminée par la charité. C'est pour ça que cet aveugle qui a une foi imparfaite, eh bien, ne peut pas être guéri du premier coup, mais il sera guéri petit à petit. Donc il nous faut, comme l'aveugle, augmenter cette foi pour augmenter en nous la connaissance et l'adoration de Dieu. Souvent, on ne comprend pas ces choses-là. Il faut aller doucement pour que petit à petit, nous comprenions les choses. Donc le Christ agit ainsi, nous dit Saint Bède, pour montrer la grandeur de l'aveuglement humain qui arrive étape par étape, progressant à la lumière de la connaissance divine. Donc, plus on est aveugle, plus on a besoin du bon Dieu. Plus on est pécheur, plus on a besoin de lui pour se sortir du péché. Donc cet aveuglement humain, en quelque sorte, nous aide à comprendre qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Donc, plus on est aveugle, plus on a besoin du bon Dieu. Et là, il y a une belle phrase de Saint Jérôme, en sens symbolique. Le Christ étend ses mains sur les yeux du malade, c'est page 17, au milieu de la page. Le Christ étend ses mains sur les yeux du malade pour qu'il puisse voir les choses clairement. Comprenant par les œuvres visibles les choses invisibles que l'œil n'a pas encore vues. Après avoir vu comme le film des péchés de sa vie, il peut considérer l'état de son âme avec les yeux d'un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc lorsque la foi augmente, la charité va augmenter. Et la charité ne peut pas augmenter si la foi n'est pas prête à recevoir cette charité. Pourquoi ? Parce que la charité, c'est la forme de la foi. Une foi imparfaite, c'est en quelque sorte une foi imparfaite, c'est une foi qui est informe. La charité ne peut pas vraiment travailler sur cette foi, parce que si vous voulez, les gonds qui ouvrent la porte de l'âme à la grâce sont tout rouillés et la porte ne peut pas vraiment s'ouvrir. Et donc, il faut que la porte s'ouvre complètement pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse transformer une foi imparfaite en une foi parfaite et amener la contrition parfaite de nos péchés, c'est-à-dire passer de l'attrition à la contrition. L'attrition, c'est le regret imparfait de nos péchés, regretter ses péchés par pure foi, pure peur de l'enfer, pour passer le regret de ses péchés par amour du bon Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec parfois les familles qui élèvent leurs enfants pratiquement uniquement dans la crainte de l'enfer. C'est très grave, il ne faut pas faire ça. Bien sûr, il faut parler de l'enfer. Notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé 63 fois dans l'Évangile, c'est pas pour rien, il faut en parler, c'est sûr. Mais l'enfer mène à la contrition parfaite. Le bon Dieu nous fait méditer sur l'enfer pour nous faire comprendre le degré d'amour pour nous, de notre Seigneur Jésus-Christ pour les pécheurs. Et nous ne serons pas capables de passer notre vie en état de grâce si l'unique motif pour lequel nous évitons le péché, c'est la peur de l'enfer. Il faut passer au degré supérieur l'amour du bon Dieu, sinon on se décourage. Et je pense que si beaucoup de nos fidèles aujourd'hui se découragent, c'est parce que justement ils en sont encore à un niveau de foi intermédiaire, de foi imparfaite. On voudrait passer à la résurrection, mais sans passer par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi parfaite va nous faire comprendre que les œuvres visibles manifestent des choses invisibles que l'œil n'a pas encore vues et que nous verrons au ciel. Saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 33, en bas de la page 17 sur le polycopier. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Il interrogeait ses disciples en chemin en disant « Qui dit-on que je suis ?» Et lui répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » Alors il leur dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre répondant, lui dit, « Vous êtes le Christ. » Et il leur défendit avec menace de dire cela à personne. Il commença à leur déclarer qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les princes des prêtres, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita après 3 jours. Il parlait de ces choses ouvertement. Alors Pierre, le tirant à part, se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre en disant « Allez derrière moi, Satan, arrière Satan, car vous n'avez pas le goût des choses de Dieu, mais des choses des hommes. » Donc à la fois, nous voyons ici la foi de Pierre qui va répondre « Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Donc Saint-Pierre a bien compris que notre Seigneur Jésus-Christ est le Messie annoncé. Mais en même temps, cette foi est imparfaite parce que il voit le Christ glorieux, mais pas le Christ souffrant. Donc c'est pour ça qu'il prend notre Seigneur à part pour le reprendre, pour reprocher à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît, qu'il fût rejeté par les anciens, qu'il fût mis à mort et qu'il avant de ressusciter le troisième jour. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit cette imperfection dans la foi de Saint-Pierre, va le reprendre fortement. Allez à moi, Satan. C'est notre Seigneur qui va appeler Saint-Pierre Satan. Dans la mesure où je refuse le Christ souffrant, je refuse la croix, et refusant la croix, je refuse l'unique moyen de salut que représente la foi. Donc, notre Seigneur voulait, pour le moment, cacher sa gloire pour ne pas exposer un grand nombre au scandale de sa passion et un châtiment plus sévère. Le Seigneur voulait que ses disciples fussent convaincus que sa passion était nécessaire au salut des hommes, et comme Satan seul s'opposait à ses souffrances dans la crainte que le genre humain fût sauvé. Il appelle Pierre Satan parce qu'il partageait les idées de Satan en s'opposant ouvertement à la passion du Christ. Car Satan veut dire qu'il s'oppose. Il n'est pas le goût des choses de Dieu, mais des choses des hommes. Donc, Satan d'ailleurs, il faut bien remarquer, n'avait pas compris tout ça. Si le démon avait compris que notre Seigneur Jésus-Christ allait détruire tout l'empire de Satan par sa passion, sa mort et sa résurrection, il est évident que le démon n'aurait jamais provoqué la mort de notre Seigneur. Mais le démon n'avait pas compris ça, et donc va s'acharner sur notre Seigneur Jésus-Christ sans réaliser qu'en faisant ça, comme on dit un peu moderne, de façon moderne, le démon coupait la branche sur laquelle il était assis. Il va détruire son propre royaume en voulant détruire le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on en est à la page 18 maintenant. Donc Jésus reproche à Pierre d'avoir le goût des choses des hommes, c'est-à-dire le goût des affections terrestres, puisqu'il voulait que le Christ préférât une vie tranquille à sa mort sur la croix. On est un peu tous comme ça. On veut bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, on ne veut plus le suivre. Vous voyez ? Et donc, attention, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de parler de sa résurrection, dit bien qu'il va falloir d'abord qu'il souffrit. Il faut que le Fils de l'homme souffrit, soit rejeté par les anciens, par les princes et prêtres, qu'il soit mis à mort avant de ressusciter le troisième jour. Donc, vous supprimez les souffrances de la passion, ben vous supprimez littéralement les bienfaits de la résurrection. Donc, il faut la foi pour continuer de voir ce Christ souffrant, le Messie. C'est ça le drame des Juifs. Les Juifs n'ont vu, ne croyaient qu'en un Messie glorieux. Donc ils attendaient un Messie glorieux, un Messie politique en quelque sorte, qui allait rétablir le royaume d'Israël. Et lorsqu'ils ont vu le Messie souffrant, ils ont méprisé ce Messie souffrant, parce qu'ils ne voulaient pas la souffrance. Et nous, on est pareil. On veut bien aller au ciel à condition de ne pas avoir à souffrir, jamais souffrir, jamais mourir. Et il faut comprendre que pour aller au ciel, il faut passer par la souffrance. Avant d'être en vie mystique, il faut passer par la vie purgative et la vie illuminative. Il faut passer par ce qu'on appelle la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Sans passer par la nuit des sens, on ne peut pas parvenir à la vie illuminative. Et sans passer par la nuit de l'esprit, on ne peut pas passer en vie unitive. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir prendre possession complète de notre cœur, est obligé de nous purifier. Il nous purifie par l'abandon de notre volonté propre. Celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, c'est un grand mystère parce que toute la foi catholique est centrée justement sur le mystère de la passion. Supprimer la passion, supprimer tout ce qui suit, supprimer la résurrection. C'est pour ça que toute la foi catholique est centrée sur le renouvellement non sanglant de cette passion qui est ce sacrifice de la messe. Et ça, le démon l'a parfaitement compris. Et l'église de Vatican II aussi, c'est pour ça que la première chose qu'ils ont fait en 1969, c'est la suppression de la messe pour supprimer tout simplement la suppression, pour supprimer la passion. En supprimant la messe, on supprime l'accès à la résurrection. La passion, c'est l'escabeau qui monte à la résurrection. Il faut monter les degrés de l'autel. Introibo ad altare Dei, je monterai à l'autel de Dieu. Pour pouvoir accéder à l'autel, offrir le sacrifice de la messe sur l'autel, pas transsubstantiation, faire descendre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, par la communion du prêtre, consommer le sacrifice avant de pouvoir jouir justement des grâces de la résurrection. Oui. Donc tout est centré sur la messe. Et la messe, c'est quoi? La messe, ce n'est pas une partie de plaisir. La messe, c'est renouvellement, sacrifice de la croix, attention. Donc, quand on a la foi, on doit assister à la messe avec les mêmes sentiments qui devaient être dans l'âme de la très sainte Vierge Marie, du cœur immaculé de Marie, au soir du Vendredi Saint. On est tous un peu comme ça. Moi, le premier, on veut la gloire d'un Messie triomphant. On ne comprend pas, on a mal fou à comprendre qu'avant de pouvoir posséder le Messie triomphant au ciel, il faut passer par le Messie souffrant. C'est pour ça que la messe est tellement importante. Vous voyez? Donc, Saint Marc, chapitre 8, versets 34 à 39, un des passages essentiels de l'Évangile. Ayant appelé à lui la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. En effet, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. En effet, que servirait à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que donnera l'homme en échange de son âme? Car si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, parce qu'il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. » Et il leur disait, « en vérité, je vous le dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Il y a là certains des versets les plus importants de l'Évangile. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. Donc, la participation au mystère de la passion est nécessaire pour pouvoir participer à sa glorification au ciel. Et la première condition pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se renoncer à soi-même, renoncer à sa volonté propre. Pourquoi? Parce que la première arme du démon, c'est l'orgueil. Que sert à l'homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Que donnera l'homme en échange de son âme? Donc la chose la plus importante pour moi, c'est le salut de mon âme. L'homme a été créé pour ça. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. C'est la phrase d'ouverture des exercices de Saint Ignace. D'accord? Si j'ai pas compris ça, si j'ai pas compris que le plus grand des malheurs qui puissent m'arriver, c'est pas la perte de mes biens matériels, c'est la perte de mon âme, eh bien j'ai rien compris. Et donc il faut demander au bon Dieu une augmentation de la foi. Là, il faut vraiment la foi pour accepter ces paroles très fortes de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me reprochez, disent les pères, d'aller volontairement au-devant des souffrances. Or, je vous déclare qu'en cela, vous faites une chose nuisible, mais que vous-même, vous ne pouvez être sauvés que par les souffrances et par la mort. La mort amène... Après le passage de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, amène au jour de Pâques, le Vendredi Saint. Mais c'est l'escabeau, encore une fois, qui amène au jour de Pâques. Le jour de Pâques, c'est le jour de la glorification. Il n'y a pas de jour de Pâques sans d'abord les souffrances et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a toutes les souffrances du jeudi soir, jeudi saint soir, du vendredi matin, jusqu'à la mort sur la croix, avant de pouvoir jouir des conséquences de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit très bien d'ailleurs que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu ressusciter immédiatement après sa mort. Il aurait pu ressusciter quelques heures après sa mort. Il aurait pu avoir son cœur transpercé par la lance de Saint Longin, donc il était vraiment mort, et puis quelques heures après ressusciter. Non, il a voulu attendre. Non seulement il a voulu attendre pour prouver ce qu'il était vraiment mort, mais il a voulu attendre aussi pour maintenir les apôtres dans l'humilité. Il a voulu attendre pour que, je dirais, les apôtres tombent au fond du gouffre. Ils sont complètement découragés, tous. Ils s'étaient enfuis tous. Au soir du jeudi saint, Jordan et les Oliviers sont tous enfuis, sauf la très sainte Vierge Marie. Et le bon Dieu a permis ça, justement, pour que les apôtres ne comptent plus sur leur propre force, mais comptent sur les forces de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Bède le Vénérable, le dit, nous nous renonçons nous-mêmes lorsque nous évitons toutes les actions qui appartenaient au vieil homme, et que nous nous efforçons de pratiquer cette sainte nouveauté à laquelle nous sommes appelés. Nous portons notre croix, ou lorsque nous mortifions notre cœur, notre corps par la privation des biens sensibles, ou lorsque notre esprit s'attriste en compatissant aux maux du prochain. Donc on ne va pas au ciel en carrosse, on ne va pas au ciel en tapis roulant. Et c'est ça l'Église des Vatican. L'Église des Vatican II, c'est quoi? Encore une fois, c'est l'Église catholique moins la croix. C'est la croix qui a été supprimée. Et comme la croix est supprimée, on supprime la messe. C'est pas pour rien, dans l'Église des Vatican II, dans l'Église des Vatican de Bergoglio, le sacrifice de la messe, en tant que sacrifice, a été détruit parce qu'on ne veut plus du renouvellement du sacrifice de la croix. On veut que le renouvellement de la résurrection, et pas la croix qui mène à la résurrection. C'est pour cela que dans les églises modernes, de plus en plus, on ne voit même plus le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, on ne voit que la croix. Et souvent, on met même un voile sur la croix pour bien montrer qu'il est ressuscité, alléluia, c'est la fin des problèmes. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il nous attend au ciel pour tous nous prendre avec lui au ciel. Et on oublie que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité après sa mort, et que sa mort a été provoquée par les souffrances atroces, et qu'il nous demande, en tant que membre du corps mystique du Christ, de participer aux souffrances du corps physique du Christ. Donc il faut abandonner notre volonté propre, renoncer à nous-mêmes, porter notre croix, poursuivre notre Seigneur Jésus-Christ. Le renoncement, ce n'est pas quelque chose de facile. Renoncer à sa volonté propre, mettre sa volonté propre dans la poche, le mouchoir par-dessus, on oublie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui commande, ce n'est pas nous. C'est pour ça que l'orgueil est le grand, grand obstacle à la conversion. Toute notre vice naturel est malheureusement fondée et malheureusement viciée par l'orgueil. L'orgueil a toutes ses conséquences du péché originel, même après le baptême. Il ne faut pas jamais oublier ça, que le baptême enlève le péché originel, mais pas les conséquences, les blessures sont là. Les blessures de faiblesse, les blessures de malice, les blessures d'ignorance et la blessure de la concupiscence. Les yeux, la chair et l'orgueil. C'est l'orgueil qui mène tout. Il nous faut donc, disent les pères, être continuellement préparés à la mort, car si dans les combats où la vie naturelle est en jeu, le plus brave soldat est celui qui a fait le sacrifice de sa vie, bien que personne ne puisse se ressusciter après sa mort, à combien plus forte raison en doit-il être ainsi dans les combats spirituels où nous avons l'espérance certaine de la résurrection, l'assurance que celui qui sacrifie son âme la sauve. On a deux assurances. La première est de savoir que si je perds mon âme en vivant dans le péché mortel, je perds tout. Et si au contraire je sauve mon âme en mourant en état de grâce, je gagne tout, malgré les apparences. Donc celui qui meurt avec toutes les richesses du monde, avec l'empreinte des trois concupiscences, on a l'impression qu'il a tout. Mais il n'a plus rien. N'oublions pas que tous ces gens qui nous entourent, qui vivent dans l'esprit du monde, avec les trois concupiscences à longueur de journée, c'est le cas de la plupart des gens qui nous entourent, surtout des politiciens autour de nous, on a l'impression qu'ils ont tout. Maintenant, ils se retrouvent devant notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont se retrouver sans rien. Ils vont se trouver complètement nus devant notre Seigneur Jésus-Christ. Une des choses les plus terribles qui puissent arriver à quelqu'un, c'est se retrouver devant notre Seigneur Jésus-Christ et se rendre compte qu'il a les mains vides. Vous voyez ? N'oublions pas que tous ces gens qui nous traînent dans la boue, qui nous méprisent ouvertement, qui attaquent notre Seigneur Jésus-Christ et son règne social en France à longueur de journée, un jour vont mourir. Un jour, ils vont mourir et ils vont passer en jugement devant le bon Dieu. Ils n'auront rien à donner. C'est ça qui est terrible. Et à ce moment-là, ça sera le rétablissement de la volonté divine. La volonté divine, on a l'impression qu'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut obtenir que sa volonté soit faite. Mais la volonté du bon Dieu, elle se fait malgré les apparences, elle se fait même actuellement, alors que nous voyons l'église complètement détruite, apparemment par des bandits comme Bergoglio, que nous voyons le système politique français, société française politique, complètement détruite par des crapules et des bandits. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est toujours le patron. Parce que Bergoglio, un jour, il va mourir. Les politiciens qui nous dirigent, les vermines qui sont en train de tout détruire en France, un jour vont mourir, vont paraître devant Dieu, et notre Seigneur Jésus-Christ va leur demander « Rends compte de ta gestion, rends compte de ce que tu avais reçu, qu'est-ce que tu as fait, des talents que je t'ai donnés. » Pensons un petit peu à ces choses-là pour ne pas nous décourager. Ne regardons donc pas comme suffisante la foi qui est renfermée dans l'âme. Dieu demande de plus la confession extérieure. Car si l'âme est sanctifiée par la foi, c'est par la profession de foi extérieure que le corps est lui-même sanctifié. En effet, la transfiguration comme l'annonce du second avènement où Jésus-Christ et les saints paraîtront au milieu d'une gloire éclatante. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, même lorsqu'il souffre les affres de la passion, est toujours Dieu. Il a la vision béatifique, tout en souffrant comme un esclave, littéralement. C'est un grand, grand mystère. Comment notre Seigneur Jésus-Christ peut-il, dans sa passion, souffrir les affres de la passion et en même temps avoir la vision béatifique? Ben, la réponse, elle est dans le mystère, justement, de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ a une double nature. Il est vraiment homme, il a une nature humaine, il est vraiment Dieu, il a une nature divine, et les deux natures sont unies dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, sans être mélangées. Il est vraiment homme, il est vraiment Dieu. Comme il est vraiment homme, il va vraiment souffrir. Comme il est vraiment Dieu, ben, il va pouvoir, par sa résurrection, ramener la vie dans ce corps, parce qu'il le commande en tant que Dieu, et par cette résurrection, nous rouvrir les portes du paradis. Alors, la grande tentation, c'est de voir que l'humanité, la grande tentation, c'est de voir que les souffrances de la croix et se décourager complètement, parce qu'on ne voit plus la volonté divine, la nature divine qui est cachée derrière la passion. Notre Seigneur Jésus-Christ va cacher sa nature divine pendant sa passion, mais elle est toujours là. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu, même lorsque, du haut de la croix, il dit « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» La première phrase du psaume numéro 21. Dans le sens allégorique, la vie, donc notre Seigneur Jésus-Christ parle de cette vie, celui qui sauvera, qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Donc cette vie, dit Saint Jean Chrysostome, c'est Jésus-Christ, et la mort, c'est le démon. Celui qui persévère dans le péché goûte la mort, de même que tout homme qui s'attache à une doctrine bonne ou mauvaise goûte le pain de la vie ou le pain de la mort. Donc, si je vis un état de péché mortel, j'ai la mort en moi. Si je vis un état de grâce, j'ai la vie en moi. Et le monde dit l'inverse. Le monde considère que les gens qui vivent dans la foi catholique sont des moribonds pour le monde. Et en fait, pour nous catholiques, nous savons que les gens qui ont tout dans le monde sont des moribonds au niveau de la grâce du bon Dieu, parce que justement, il leur manque l'essentiel. Donc c'est un mal, c'est la conclusion des pères, c'est un moindre mal de voir la mort, c'est un mal plus grand que de la goûter, et un plus grand encore de la suivre, et le plus grand de tous les malheurs, c'est de s'en rendre l'esclave. Donc le plus grand malheur qui puisse nous arriver, c'est de perdre la grâce du bon Dieu par le péché mortel. Il faut être convaincu de ces choses-là, il faut expliquer ça à nos enfants. C'est toute l'éducation catholique d'expliquer que nous sommes des êtres d'éternité, que le plus grand malheur qui puisse nous arriver, c'est de perdre la charité par la grâce sanctifiante. Rappelez-vous la très belle épître de Saint Paul, c'est un premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, l'hymne à la charité. Si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je n'ai pas la grâce sanctifiante du bon Dieu en moi, je ne suis rien, même si je donne ma vie pour nourrir les pauvres, même si je me laisse brûler comme le dernier des esclaves, si je n'ai pas l'état de grâce, c'est-à-dire si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit au loin, je n'ai plus rien. Alors qu'au contraire, les gens du monde, eux, ne voient que les espèces trébuchantes, l'argent. Celui qui a de l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Celui qui n'a pas l'argent, il n'a plus rien. Pour nous, c'est l'inverse. En général, plus les gens ont d'argent, moins ils ont la grâce du bon Dieu. Plus les gens sont couverts de biens matériels, moins ils ont de biens spirituels. Et au contraire, plus les biens sont couverts, sont imprégnés de biens spirituels, moins ils ont besoin de ces biens bien matériel. Donc nous avons terminé ici le chapitre 8 de Saint Marc. Nous commençons maintenant le chapitre 9 de Saint Marc. Donc chapitre 9. Qui est un chapitre de 49 versets. On avance. Je l'ai déjà dit un peu plus vite dans cet évangile parce que beaucoup de choses ont déjà été expliquées dans les autres évangiles. Chapitre 9 de Saint Marc, sous le polycopie à la page 19. Versets 1 à 8, chapitre 9. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et tout à fait blancs comme la neige, tels qu'aucun foulon sur la terre n'en peut faire d'aussi blanc. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon pour nous d'être ici. Faisons 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient pas ce qu'ils disaient et l'effroi les ayant saisis. Il se forma alors une nuée qui les couvrit et une voix sortit de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt, regardant tout autour, ils ne virent plus personne si ce n'est Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité d'entre les morts. Donc là, on voit une théophanie de notre Seigneur Jésus-Christ, une manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, non de façon totale, mais de façon partielle, parce que nul ne peut voir Dieu ici-bas, sur la terre, sans mourir. Beaucoup de gens pensent que cette théophanie, cette transfiguration, était miraculeuse. En fait, c'est l'inverse. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, aurait dû manifester, je dirais, de façon extérieure, constamment sa divinité. En fait, il cache volontairement sa divinité sous son humanité. Et ici, il va montrer une toute petite partie de sa divinité. Il le fait juste avant sa passion, pour rappeler aux apôtres, attention, n'oubliez pas, vous voyez mon humanité, sachez que je suis Dieu. Je ne suis pas simplement le fils de la Sainte Vierge Marie, je suis aussi le fils de Dieu, parce que je suis la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais derrière cette humanité, ma divinité est cachée. Et lorsque vous me verrez écrabouillé sur la croix, pressé comme les noyaux d'olive sont pressés par le pressoir de la croix, vous oublierez que je suis Dieu. Mais n'oubliez pas, je suis Dieu. Et pour leur prouver, il va dévoiler une toute petite partie, une parcelle de sa divinité. C'est pour ça qu'il est dit qu'il fut transfiguré devant eux. Cette transfiguration, c'est une manifestation d'une partie, toute petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans d'autres évangiles qui expliquent cette même transfiguration, il est bien expliqué que lorsque les apôtres qui étaient avec lui, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, voient cette divinité, eh bien, ils paniquent complètement, ils tombent littéralement par terre, la face contre terre, ne pouvant supporter cette vision de la divinité. Alors, il y a un point très important, sur lequel j'insiste à chaque fois que j'explique la transfiguration. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un grand mystère, hein, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est-il pas transfiguré devant tous les disciples, devant tous les apôtres? Il aurait pu faire une grande théophanie devant toute la foule des gens qu'il suivait, au moins devant les 12 apôtres et les 72 disciples. Non, notre Seigneur Jésus-Christ va se transfigurer simplement devant 3 apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Il n'y a pas d'égalité entre les apôtres. Saint-Pierre parce qu'il sera le premier pape, Saint-Jacques parce qu'il sera le premier martyr, le premier apôtre à mourir pour notre Seigneur, et Saint-Jean parce qu'il était l'apôtre que Jésus aimait, et les autres. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'est-il pas transfiguré devant les autres apôtres? Ils n'avaient pas besoin de cette transfiguration, ils en auraient bien eu besoin aussi. Là, il y a un grand mystère, il faut réfléchir, méditer sur ce mystère. Donc, encore une fois, vous voyez, je pense, ça, j'insiste lourdement là-dessus, je m'excuse, j'en ai déjà souvent parlé, mais c'est capital à comprendre. un des points clés de la révolution, c'est ce mythe, il n'y a pas d'autre mot, de l'égalité. À tel point que le révolutionnaire, nous sommes entourés de révolutionnaires autour de nous dans la politique et dans l'Église de Vatican II, le révolutionnaire pense que toute forme d'inégalité est systématiquement une injustice. Comme ils veulent supprimer l'injustice, on supprime l'inégalité. Donc tous les hommes doivent être égaux. Or, l'égalité n'existe pas dans la nature. Il n'y a pas d'égalité dans la nature, il n'y a pas d'égalité dans la nature d'ici-bas, il n'y a pas d'égalité dans la nature spirituelle, il n'y a pas d'égalité dans la nature matérielle, et il n'y a pas d'égalité dans la nature spirituelle. Toutes les âmes, chaque âme est différente. Et donc l'égalité, contrairement à ce que nous ressassent les révolutionnaires, l'égalité n'est pas un dû. Au contraire, c'est contre la volonté du bon Dieu. Le bon Dieu ne veut pas que les âmes soient égales. Pour ça, quand il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, les âmes sont toutes inégales. Chaque âme est différente. Et donc, il faut pas être jaloux des grâces de truie, à tel point que l'envie des grâces de truie est un péché contre le Saint-Esprit. Oui. Alors là, on voit pas simplement une manifestation de la divinité de notre Seigneur. En fait, on voit une manifestation de la Sainte Trinité. Les trois personnes vont apparaître. Donc, cette voix qui sort de la nuée en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, le Père. » On voit notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils. Et dans d'autres passages de l'Évangile, on voit même une tourterelle, une colombe qui va voltiger au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ qui représente le Saint-Esprit. Donc, c'est une manifestation, une manifestation de la Trinité Sainte. Trois personnes dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quelque chose d'absolument essentiel à la foi catholique. N'oubliez pas, là on voit, si vous voulez, la manifestation des trois grands mystères de la foi catholique, l'incarnation, la rédemption et la Sainte Trinité, l'incarnation, la double nature en notre Seigneur Jésus-Christ, il est vrai Dieu et vrai homme, la rédemption qui suit l'incarnation parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, en tant que Dieu il peut nous sauver, en tant qu'homme il peut souffrir, c'est la rédemption, il va donc souffrir sur la croix pour nous racheter. Et cette rédemption et cette incarnation ne sont possibles qu'à cause de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu en trois personnes égales et distinctes. Égales le Père, le Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit et Dieu, mais distinctes parce que le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Et parfois, on a des catholiques qui voudraient un peu cacher ça en disant « mais c'est quand même bon, c'est quand même très spécial ». Il faut comprendre que les trois grandes religions monothéistes croyant en un seul Dieu croient au même Dieu, mais pas du tout. Parce que justement, le Dieu des catholiques est un Dieu en trois personnes et c'est une base fondamentale de notre foi catholique. Donc il ne s'agit pas simplement de croire en un seul Dieu, ça ne suffit pas. Les musulmans croient en un seul Dieu. Les juifs croient en un seul Dieu. Ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est monothéiste que ça veut dire qu'on croit au vrai Dieu. Les musulmans croient en un seul Dieu, mais ils croient en un Dieu qui n'est pas un Dieu trinitaire. Donc le Dieu des musulmans n'est pas le vrai Dieu, parce qu'ils ne croient pas ni en notre Seigneur Jésus-Christ, ni au Saint-Esprit. Ils ne croient qu'en un Dieu unique, mais qui est simplement un justicier. Il n'y a aucun amour, si vous voulez, de Dieu pour les hommes dans l'islam. C'est ça qui est terrible dans l'islam. L'islam, c'est un Dieu qui punit. C'est pour ça qu'il y a dans l'islam un fatalisme total. C'est écrit, disent-ils, tout le temps. Et le Dieu des Juifs, actuellement, dans le Nouveau Testament, comme ils ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont rejeté le Messie, puisqu'ils l'ont crucifié dans sa nature humaine, donc le Dieu des Juifs n'est pas le véritable Dieu, parce que justement, ils ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont crucifié, et si vous voulez, entraîne que ils ont renié la deuxième personne de la Sainte Trinité, et en renié la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Dieu des Juifs du Nouveau Testament n'est pas le vrai Dieu, même si le Dieu qu'adoraient les Juifs dans l'Ancien Testament est le même Dieu qui descend sur l'autel de la messe traditionnelle catholique chaque jour entre les doigts du prêtre. Et il faut bien comprendre ces choses-là, il y a là un grand mystère. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur cette transfiguration. Il y a beaucoup de choses. Transfiguration, j'en, J'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, explications, notamment dans Saint Matthieu, on verra ça aussi avec Saint Luc. La transfiguration est un des passages qui a été très commenté par les pères. Donc notre Seigneur nous dit, les pères, page 19 au milieu de la page, prend avec lui les trois têtes du collège apostolique. Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques. Saint Pierre qui a proclamé la divinité de Jésus et qui brûle d'amour pour lui. Saint Jean, le disciple bien-aimé. Saint Jacques, le prédicateur courageux, le théologien que sa sainteté rendait tellement odieux aux Juifs d'Hérode, aux Juifs qu'Hérode le fit mourir pour leur être agréable. Vous voyez, là on peut s'étonner de ce titre extraordinaire de Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Quel titre de gloire! L'apôtre que Jésus aimait. À tel point qu'on pourrait presque se demander si notre Seigneur Jésus-Christ aimait les autres apôtres. On pourrait se dire, mais puisque Saint Jean prétend être l'apôtre que Jésus aimait, donc notre Seigneur Jésus-Christ n'aimait pas les autres apôtres. Est-ce que nous aurions osé, nous, écrire dans un évangile « Je suis l'apôtre que Jésus aime ». Sous-entendu, je suis l'unique apôtre bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Saint Jean, qui écrit sous la dictée du Saint-Esprit, qui est inspiré par le Saint-Esprit, parle de lui-même en disant « l'apôtre que Jésus aimait ». Un grand mystère. Donc il faut équilibrer tout ça avec les défaillances des apôtres. Les apôtres à la fois ont mis les points glorieux, comme par exemple ici la transfiguration devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, mais les mêmes apôtres n'ont pas hésité à inscrire aussi dans l'évangile leur lâcheté, entre autres le jour de la Passion. Saint-Pierre a insisté pour que dans l'évangile, soit inscrite dans des lettres de sang faites avec son propre sang, soit inscrite l'histoire de la triple négation par Saint-Pierre de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Trois fois, il a nié être un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu que ça soit marqué. Donc, on voit à la fois la gloire de Saint-Pierre, qui est choisi par notre Seigneur Jésus-Christ pour être témoin de la transfiguration, en même temps les faiblesses de Saint-Pierre. On voit Saint Jean qui est l'apôtre que Jésus aimait, mais Saint Jean qui va aussi s'enfuir comme les autres apôtres au jeudi saint en soir, pareil pour Saint Jacques. Donc Saint Jean Chrysostome dit que ce n'est pas dans une maison que Jésus révèle sa gloire à ses disciples, il les conduit sur une haute montagne qui par son élévation était le symbole de la sublimité, de la grandeur qu'il allait manifester. Donc il quitte le monde, il quitte la vallée du monde pour monter sur les sommets, symbole du paradis. En quelque sorte, la transfiguration, il dévoile une partie du paradis. Il ne peut pas dévoiler toute sa divinité, parce que s'il avait dévoilé toute sa divinité pendant la transfiguration, les apôtres seraient morts, littéralement. Et donc, il va enlever un tout petit peu le voile. Une comparaison toute simple qui peut être faite, que les enfants comprennent parfaitement. Imaginez le soleil, par exemple. Eh bien, le soleil qui, lui, dans un ciel sans nuages, on ne peut pas le regarder en face, c'est impossible, parce qu'on va se brûler les yeux. Quand vous regardez une éclipse, il faut faire très attention, se protéger les yeux avec un verre fumé, justement parce que nos yeux sont trop faibles pour voir la divinité, pour voir la splendeur du soleil. Le rayonnement du soleil est tel que les yeux ne peuvent pas le voir sans être brûlés. Ils ne peuvent pas voir ce rayonnement sans être brûlés. Et bien c'est la même chose avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas voir avec les yeux de notre âme la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est trop brillant pour nous. C'est un grand mystère. Donc les Juifs avaient reproché à Jésus-Christ de violer la loi. Ils l'avaient traité de blasphémateur, s'attribuant la gloire de Dieu son Père. Il fait apparaître deux hommes célèbres par des vertus opposées à ces deux crimes. Moïse, le législateur, qui a donné la loi, et Élie, le prophète, qui était l'apôtre zélé de la gloire de Dieu. Notre Seigneur apparaît justement entre Élie et Moïse. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Donc Élie, c'est le prophète, Moïse, c'est la loi. Pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui a donné la loi à Moïse, celui qui est annoncé comme Messie par Élie et qui amène à la croix du calvaire. Donc Élie qui a été l'apôtre zélé de la gloire de Dieu, la présence de ces deux hommes prouve que Jésus ne s'est rendu coupable ni contre Dieu, ni contre la loi. Donc il est entre Élie, le législateur, et je dis Élie, le prophète, et Moïse, le législateur. Donc Moïse qui a subi la mort, Élie qui en a été préservé jusqu'alors, déclare en se rendant à l'appel du Sauveur qu'il est le maître de la vie et de la mort. Leur présence signifie encore que l'enseignement des prophètes a été l'introduction à la doctrine de Jésus-Christ. Enfin, elles mettent en évidence l'union des deux testaments et montrent comment, lors de la résurrection générale, les apôtres se joindront aux prophètes et s'avanceront d'un commun accord au-devant de leur maître. N'oublions pas que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont un seul et même Dieu. Ça, encore une fois, c'est un peu une tendance, parfois, c'est certain, voilà, un peu séparer tellement l'Ancien Testament du Nouveau Testament, qu'on met une division en Dieu. Non, c'est le même Dieu. Le Dieu qui apparaît à Moïse sur au moment où il reçoit les 10 commandements de Dieu, c'est le même Dieu qui va apparaître dans la transfiguration à Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, c'est le même Dieu qui va être crucifié dans son humanité le vendredi saint, c'est le même Dieu qui descend sur l'autel au moment de la consécration, c'est le même Dieu que vous recevez sur votre langue sous les apparences du pain au moment de la communion. C'est le même Dieu, attention. Et donc, il faut accepter les différentes, si vous voulez, les différentes transfigurations entre Seigneur Jésus-Christ, cette transfigure. Et il faut la foi pour accepter cette transfiguration. Donc il faut la foi pour Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean pour voir que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est homme à côté d'eux, qui parle entre eux avec Élie et Moïse, est vraiment Dieu. De même qu'il faut aussi la foi, peut-être encore plus de foi, pour voir en cette hostie qui est remise sur notre langue au moment de la communion, de voir dans cette hostie qui n'apparaît que comme un bout de pain, et bien que ce n'est pas du pain, mais la substance même du corps, du sang, de l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que beaucoup de pères de l'Église comparent la transsubstantiation à une transfiguration. On verra ça plus tard. Donc Saint Bède le Vénérable nous explique que l'humanité transfigurée de Jésus et la présence des deux saints Saint Élie et Saint Moïse, pendant un instant seulement, a tant de charme que Pierre s'efforce par ses prières d'obtenir la prolongation de ce bonheur. Que sera donc la félicité du ciel où nous contemplerons la divinité elle-même au milieu des cœurs angéliques ? Vous voyez, donc là, il ne voit qu'une toute petite partie de la divinité. Déjà, Saint Pierre va avoir cette parole magnifique : Seigneur, Maître, il est bon pour nous d'être ici. Faisons 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Et il faut il faudrait que chaque catholique puisse dire la même chose pendant la Sainte Messe. Quand vous assistez à la Sainte Messe, mes bien chers frères, mes bien chers amis, dites cette même prière. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Apprenez à vos enfants à aimer la messe. Apprenez à vos enfants à aimer le sanctuaire. Apprenez à vos enfants à respecter, à aimer l'oratoire, la chapelle, l'église où notre Seigneur Jésus-Christ descend. Vous voyez ? Qu'il est triste parfois de voir souvent des adolescents, par exemple, même parfois des adultes, qui se considèrent, qui assistent à la Sainte Messe et qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est leur déjeuner qui va suivre le sacrifice de la messe, quoi. Et puis, ils viennent à la messe avec des pieds de plomb parce qu'ils sont obligés, puis c'est tout. Non, il faut avoir cet amour de la messe parce que la messe, c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, de façon extraordinaire. Donc, Saint Pierre ne comprend pas ce qu'il dit. Il est marqué dans l'Église, dans l'Évangile, au verset 5, chapitre 9. Il ne savait pas ce qu'il disait, l'effroi les ayant saisis. Ils sont complètement paniqués par ce qu'ils voient. Donc, il oublie que le Dieu qui a promis à ses saints n'est point sur la terre, mais dans le ciel. Phrase qui est mal imprimée, là j'ai fait la correction déjà dans le polycopier pour que je mettrai un jour sur le site. Je m'excuse du polycopier qui est actuellement sur le site. Il y a parfois des fautes. Quand je corrige ces fautes à la fin de chaque dossier, quand j'ai fini un dossier d'un groupe de 5 chapitres. Donc je remets le nouveau polycopié pour corriger avec toutes les fautes que j'ai vues. Donc le bon Dieu, si vous voulez, se transfigure pour nous montrer que notre vie n'est pas ici-bas, mais au ciel. Saint Pierre aussi ne s'est point rappelé que tant qu'ils seront enveloppés d'un corps mortel, ni lui ni les autres apôtres ne pourront entrer en participation à cette vie immortelle. Donc il nous faut nous séparer de ce corps pour pouvoir passer dans le monde de l'immortalité, dans le monde de l'éternité. Et nous récupérerons ce corps au moment de la résurrection générale à la fin des temps. Saint-Pierre a également oublié que dans la maison du Père Céleste, toute construction humaine est inutile. Ajoutons qu'aujourd'hui encore, ce serait une folie de prétendre faire une distinction entre la loi, les prophètes et l'évangile, puisque ces trois objets forment un tout indivisible. Donc on ne peut pas séparer l'Ancien du Nouveau Testament, attention. Le Dieu de crainte de l'Ancien Testament, le Dieu d'amour du Nouveau Testament est le même Dieu. Donc faisons pas comme certains qui séparent les deux en disant on ne veut plus de l'Ancien Testament parce que c'était Dieu de crainte. Attention, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Donc après la consommation de ce monde qui a été fait en 6 jours, Jésus, si nous sommes ses disciples, nous transportera sur une montagne élevée, la montagne de la transfiguration, Mont Tabor, c'est-à-dire dans le ciel, et là nous jouirons de la magnificence de sa gloire divine. Donc le ciel est comme le lieu de la transfiguration définitive, le lieu de la résurrection. Et, donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, nous en sommes maintenant à la page 20. Donc, je vais arrêter ici parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. J'essaie de ne pas trop dépasser le temps. Donc, nous continuerons la prochaine fois. Et nous allons terminer ce cours par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Les saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.